Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La théorie mathématique de la communication réunit le texte fondateur publié par Claude Shannon en 1948 et une introduction de Warren Weaver destinée à élargir sa portée. Il ne s'agit ni d'un manuel de communication interpersonnelle, ni d'un essai sur le sens des messages. C est un ouvrage mathématique qui isole les conditions générales dans lesquelles des symboles peuvent être codés, transmis sur un canal perturbé, puis reconstruits. Shannon transforme ainsi une série de problèmes techniques liés au télégraphe et au téléphone en théorie quantitative de l'information. Le livre définit les notions qui structurent encore les systèmes numériques, notamment le bit, l'entropie, le codage, le bruit et la capacité de canal. Son objectif est double: déterminer la compression théoriquement possible d'une source et établir à quelles conditions une transmission fiable demeure possible malgré les perturbations. Dense et formel, le texte a une importance historique exceptionnelle, car il fournit le langage commun de nombreuses technologies contemporaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un modèle de transmission qui sépare le message de sa signification. Le geste décisif de Shannon consiste à décrire une communication comme une chaîne fonctionnelle: une source produit un message, un émetteur le code en signal. Le canal le transporte, un récepteur le décode et une destination le reçoit. Le bruit peut altérer le signal durant ce trajet. Ce schéma paraît élémentaire, mais il permet de distinguer clairement les responsabilités techniques: produire des symboles, les représenter, les faire circuler et corriger les dégradations. La théorie ne cherche donc pas à savoir si un message est vrai, utile, émouvant ou compris dans toutes ses nuances. Elle étudie la quantité statistique de choix qu'il comporte et la fiabilité de son transport. Cette abstraction rend le cadre applicable à des messages très différents, tels que texte, parole, image ou suite de données. Elle explique aussi une limite importante de l'ouvrage: l'information au sens de Shannon ne se confond pas avec le sens humain. Deux messages peuvent avoir la même quantité d'informations mathématiques tout en ayant des significations radicalement différentes. Cette séparation est précisément ce qui donne au modèle sa généralité pour l'ingénierie, tout en empêchant de le réduire à une théorie complète de la communication sociale ou linguistique. Deuxièmement, le bit et l'entropie pour mesurer l'incertitude d'une source. L'ouvrage donne une définition opérationnelle de l'information en partant de l'incertitude avant réception d'un message. Plus les issues observées étaient improbables parmi les issues possibles, plus sa réception apporte d'informations. Dans le cas simple de choix équiprobable, la quantité correspond au logarithme du nombre de possibilités. Le bit devient alors l'unité associée à un choix binaire entre deux possibilités également plausibles. Shannon généralise ce raisonnement aux sources dont les symboles n'ont pas tous la même probabilité. L'entropie mesure leur incertitude moyenne, donc le nombre moyen de bits nécessaires pour les décrire dans la limite idéale. Une source très prévisible possède une entropie faible, parce que ses répétitions peuvent être exploitées. Une source aux résultats plus équilibrés et moins prévisibles exige davantage de ressources de codage. Cette notion ne mesure ni le désordre au sens courant, ni la valeur intellectuelle d'un contenu. Elle formalise une contrainte statistique. Son intérêt pratique tient à ce qu'elle relie directement les probabilités observées à une borne sur la représentation numérique, fournissant un critère pour évaluer l'efficacité potentielle d'un code. Troisièmement, le théorème de codage de source fonde la compression sans perte. Une des contributions centrales du livre est de montrer qu'une source aléatoire peut être codée avec un nombre moyen de symboles proche de son entropie, mais pas durablement inférieur à celle-ci si la restitution doit rester exacte. Cette borne donne un sens rigoureux à la compression sans perte. Il ne suffit pas d'inventer une notation plus courte pour réduire la taille des données, le gain provient de la structure statistique de la source, en particulier de la fréquence inégale des symboles et des dépendances entre eux. Les occurrences prévisibles demandent moins de descriptions que les occurrences rares. En revanche, une source déjà proche de l'imprévisibilité maximale offre peu de redondance exploitable. Le résultat ne fournit pas à lui seul tous les algorithmes de compression modernes, mais il établit la limite théorique à laquelle ces méthodes cherchent à se rapprocher. Il permet également de distinguer compression et perte d'information. Réduire un fichier en conservant exactement son contenu relève du problème traité ici. Accepter une approximation pour économiser davantage de place relève d'un autre cadre. Cette clarification reste essentielle pour analyser les formats de données et leurs compromis, sans confondre performance observée et impossibilité fondamentale. Quatrièmement, la capacité de canal fixe une frontière entre débit et fiabilité. Shannon aborde le bruit non comme un accident isolé, mais comme une caractéristique mesurable du canal. Son théorème de codage de canal établit l'existence d'une capacité à un débit limite liée aux propriétés du support de transmission, en dessous de cette capacité. Il est théoriquement possible de concevoir des codes rendant la probabilité d'erreur arbitrairement faible, lorsque les blocs de transmission deviennent suffisamment longs. Au-dessus, aucune méthode de codage ne peut assurer une communication fiable. Cette conclusion modifie profondément la manière de penser les télécommunications. Le bruit ne condamne pas nécessairement le message et la fiabilité ne dépend pas uniquement de la puissance du signal ou de la qualité matérielle du canal. Elle dépend aussi de la redondance introduite intelligemment par le code. Le livre ne promet donc pas une absence magique d'erreur dans toute situation réelle, les contraintes de délai, de calcul, de mémoire et de longueur finie restent décisives dans les systèmes concrets. Sa contribution est plus fondamentale. Elle établit une frontière mathématique entre ce qui est atteignable en principe et ce qui ne l'est pas, fournissant un repère pour arbitrer entre débit, robustesse et ressources techniques. En dernier lieu, une théorie fondatrice dont Weaver élargit prudemment la lecture. Le texte de Shannon est conçu pour les problèmes techniques de transmission, avec un appareil probabiliste exigeant. L'introduction de Warren Weaver joue un rôle complémentaire en présentant l'importance du cadre à des lecteurs moins spécialisés et en distinguant plusieurs niveaux possibles de communication. Cette médiation a favorisé la diffusion de notions initialement développées pour les réseaux de télécommunications. Toutefois, la postérité de l'ouvrage a parfois étendu le vocabulaire de Shannon au-delà de son domaine précis. L'entropie informationnelle a inspiré des travaux en informatique, linguistique, biologie, statistique et cryptographie, mais son emploi dans ces champs exige de définir soigneusement la source, les probabilités et le type de signal analysé. Le livre se distingue par cette discipline conceptuelle, il gagne en puissance en laissant volontairement de côté la sémantique et les intentions des personnes. Pour un lecteur actuel, cette réserve est aussi instructive que les résultats eux-mêmes. Elle rappelle qu'un modèle très général n'explique pas automatiquement tous les phénomènes auxquels on applique ces mots. Lire Shannon permet ainsi de comprendre l'origine d'outils omniprésents dans le numérique, mais aussi les conditions strictes sous lesquelles leurs mesures ont une interprétation valable. En conclusion, la théorie mathématique de la communication s'adresse en priorité aux étudiants avancés, ingénieurs, informaticiens, mathématiciens et chercheurs qui veulent remonter au fondement de la théorie de l'information. Elle convient également aux lecteurs issus des sciences cognitives, de la linguistique ou des sciences des données, à condition d'accepter un texte formel et de ne pas y chercher une théorie du dialogue humain. Son bénéfice intellectuel majeur est d'apprendre à formuler avec précision des questions, souvent traitées intuitivement, quelle part d'un message est imprévisible, quelle compression exacte est possible, quel débit un canal bruité peut soutenir et comment la redondance peut protéger une transmission. Le lecteur y acquiert moins des recettes immédiatement applicables qu'un ensemble de limites, de définitions et de raisonnements qui permettent d'évaluer les recettes existantes. Comparé aux ouvrages modernes de vulgarisation ou aux manuels d'algorithmique, ce livre est plus abstrait et moins orienté vers l'implémentation. C'est aussi ce qui le distingue. Il expose les résultats qui rendent intelligibles compression, correction d'erreurs et communication numérique, sans les confondre avec les technologies particulières de leur époque. La présence de Weaver facilite l'accès au projet général, mais ne remplace pas l'effort requis par les démonstrations de Shannon. Sa lecture reste particulièrement précieuse pour comprendre pourquoi le numérique repose autant sur des bornes mathématiques que sur des innovations matérielles et logicielles. Si vous souhaitez soutenir Claude Shannon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.